France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Huawei est quelque chose de très dangereux quand vous regardez ce qu'ils ont fait d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue militaire, très dangereux. Mais il est possible que Huawei soit inclus dans un accord commercial.
Donald Trump, ce jeudi, on va évidemment démarrer avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ça ressemble à une guerre froide qui viendrait de se réchauffer ces derniers jours. Les États-Unis ont relevé les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Et la victime collatérale de ce conflit, c'est l'entreprise Huawei, puisque Google, Panasonic, Toshiba ont cessé leurs relations avec le géant chinois des smartphones. Quel regard portez-vous sur ces événements? Est-ce que c'est de bonne guerre, Gilles?
D'abord, c'est un événement extrêmement important. Je pense dont on ne mesure pas ce qu'il peut vouloir dire. Pour l'instant, on est au début de ce débat-là et donc on en est à ses potentialités. Mais c'est un débat extrêmement important qui peut marquer un tournant non seulement dans la mondialisation, mais dans, disons, un partage du monde de la technologie.
Même si on n'a pas de portable Huawei, je dis en plaisantant.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donald Trump a dit par un décret présidentiel qu'il était interdit pour des sociétés américaines d'avoir des relations commerciales avec, notamment, hein, une liste, mais notamment Huawei. Concrètement, ça ne change rien. Pour beaucoup, ça ne change rien pour le consommateur américain et ça ne change rien pour le consommateur chinois. Ça ne change rien pour le consommateur américain parce qu'il n'a pas Huawei est quasiment peu implanté et ça ne change rien pour le consommateur chinois puisque il n'a pas accès aux applications de Google. En revanche, ça change beaucoup pour les consommateurs européens et notamment pour les consommateurs français, puisque s'ils achètent un portable Huawei, il y a un certain nombre d'applications déterminantes auxquelles ils n'auront pas accès. Ça change beaucoup pour des entreprises américaines et notamment, et pas seulement pour Google, mais aussi pour tous les fabricants de semi-conducteurs. Ouais. Et ça change évidemment énormément pour Huawei elle-même, dont le développement à l'extérieur de la Chine est compromis. La question est: pourquoi? D'un mot, Donald Trump dit raison stratégique. Et ça peut être un des éléments. Et ça peut être un des éléments très importants avec ce paradoxe que ce qui est en jeu en réalité, c'est moins le développement des téléphones portables qui se fait aujourd'hui que demain le déploiement
de la 5G.
De la 5G sur laquelle là, il y a des vrais doutes. Mais est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est un sujet de domination technologique où pour la première fois les États-Unis se voient réellement menacés par la Chine et ils veulent retarder le développement de la Chine? Et où est-ce que c'est, ce que vous avez dit, un épisode d'une guerre commerciale avec un déficit américain vis-à-vis de la Chine qui a explosé et pour lequel on essaye, pour parler à la Chine, de taper Huawei.
Natacha.
Premier point, oui, en effet, il y a une question technologique, c'est-à-dire que les États-Unis ont constaté leur retard par rapport à Huawei sur la 5G et que ce sujet-là ne doit pas être négligé dans la mesure où là aussi, il devrait nous intéresser, nous, citoyens européens, qui sommes de toute façon dépassés par tout le monde et qui sommes de véritables colonies. Donc si notre problème est de savoir si nous restons une colonie américaine ou si nous devenons une colonie chinoise, ça devrait tout de même nous intéresser.
Vous vous approchez de la zone de danger politique
non,
ce week-end de scrutin. Je le dis en souriant, mais...
Oui, mais on ne va pas aller plus loin. Simplement, je pense qu'il y a actuellement un réveil des impérialismes et en particulier à travers la guerre commerciale, un impérialisme, l'expression d'un impérialisme, bien sûr chinois, ça on le connaît, mais aussi américain, de plus en plus agressif et de plus en plus violent, et qui a des conséquences majeures sur les équilibres géopolitiques, sur l'équilibre du monde, parce que dans le cas de Huawei, il s'agit de freiner l'avancée de la Chine et donc d'essayer d'empêcher la Chine de s'étendre. Mais il y a d'autres cas, la question de l'Iran, la question où ça touche directement, là aussi, les intérêts commerciaux du continent européen. Donc nous sommes face, là, à un conflit dans lequel nous allons devoir nous positionner parce qu'il peut faire basculer le monde. Pour l'instant, nous en sommes à la guerre commerciale. Pour l'instant, c'est la croissance mondiale qui est mise en danger à travers cette guerre. Espérons que la guerre ne restera que commerciale.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée? L'homme serait dominé par les singes.
La planète des singes, le film de 1968, parce que Natacha, vous vouliez vous arrêter cette semaine sur une expérience scientifique. Des scientifiques chinois ont implanté à des singes un gène essentiel pour le développement du cerveau humain, et c'est une expérience qui a été faite dans le cadre d'une étude sur l'évolution de l'intelligence humaine qu'ils ont menée avec des chercheurs américains de l'université de Caroline du Nord. Pourquoi vouliez-vous vous arrêter sur cette question-là?
D'abord parce que nous parlions à l'instant de guerre technologique, il y a une guerre qui va se jouer sur les biotechnologies dans les décennies qui viennent.
Mais là ils sont alliés.
Là aussi, oui, mais là aussi nous devrions nous en préoccuper. Pourquoi ? Parce que cette expérience, intuitivement, n'importe qui peut comprendre qu'elle est vertigineuse. C'est-à-dire que implanter un gène humain, un gène qui développe les capacités cognitives des singes, au moment même où les avancées scientifiques nous confrontent à la question de notre humanité, de notre spécificité, de ce que ressentent et comprennent les animaux, de notre différence et de notre ressemblance avec eux, tous ces sujets-là sont déjà extrêmement complexes. Que ferons-nous le jour où les rares, je ne dirais même pas frontières, car ce ne sont pas tout à fait des frontières, mais les rares différences seront gommées? Quel statut moral,
entre les singes et nous,
quel statut moral et juridique peuvent avoir des singes qui, si l'expérience était concluante, aurait développé des capacités cognitives qui les rapprochent des êtres humains?
Elle est partiellement concluante parce que les cerveaux de ces singes, de ces macaques en l'occurrence, ont obtenu de meilleurs résultats à des tests sur la mémoire de court terme et le temps de réaction que des singes vivant dans la nature. Gilles,
oui, vous avez commencé en passant un extrait de La planète des singes. Dans le livre de science-fiction de Pierre Boulle, donc 1963, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire la prééminence des singes sur par rapport notamment aux hommes. La grande différence, c'est que, outre que ça se passe en 2500, c'est une évolution naturelle qui explique cette prééminence. C'est-à-dire c'est la capacité d'imitation des singes qui font que peu à peu, ils prennent le pas sur les hommes. Là, c'est la science. Et ça pose des questions vertigineuses, a dit Natacha.
Mais ce qui m'ont fait flipper l'un et l'autre, c'est que les singes soient aussi intelligents que des hommes.
La question, c'est qu'est-ce qui est choquant dans l'histoire? Est-ce que c'est l'objet, c'est-à-dire le fait qu'on implante des gènes humains sur des animaux et en l'occurrence sur des singes, qui pose la question des limites du progrès, du but du progrès? Le progrès en soi n'existe pas, il n'existe que par rapport à un but, ce qui pose les questions des limites éthiques de la science.
Mais vous qui êtes progressiste, vous validez cette étude?
Non, alors c'est très intéressant. Le progressisme ne croit pas que toute évolution, y compris toute évolution technologique ou scientifique, est un progrès. Ça ne se fait que par rapport à un but. Et c'est ça qui est choquant. Ou est-ce que la question n'est pas l'objet, mais le sujet, c'est-à-dire le fait que ce soit sur des animaux, en l'occurrence sur des singes, qu'il y ait des expérimentations, ce qui pose la question de l'expérimentation animale et du statut des animaux.
Ajoutons une question démocratique majeure. Cette expérience remet en cause notre humanité commune, est absolument fondamentale pour l'évolution de ce que nous serons. Qui décide quelles sont les limites qu'on donne à la science? C'est-à-dire, est-ce que ça ne doit pas être un sujet politique au sens le plus noble et le plus essentiel du terme, c'est-à-dire qu'il nous concerne tous et pas simplement les scientifiques qui décident de s'arroger le droit de faire cela?
Et on peut avoir une pensée en l'occurrence pour les singes qui sont morts durant la phase de test menée par les chercheurs. Un mot, Gilles, avant de passer au sujet suivant.
Qui, c'est-à-dire les scientifiques, mais pas seulement les scientifiques, et où? C'est-à-dire que, typiquement, ce sont des décisions qui ne devraient pas être seulement des questions nationales, mais qui devraient être traitées dans un cadre européen et a fortiori international.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
C'est fini! C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52, en levant les bras au ciel, eh bien elle remporte enfin Roland Garros à 25 ans.
Marie Pierce en 2000 qui remporte le tournoi de Roland-Garros et on découvre, Gilles, que vous êtes passionné de tennis. Demain démarre Roland-Garros avec des stades flambant neufs. Ce sera sans doute le dernier Roland de Roger Federer. Mais votre combat, c'est pas celui-là. Votre combat, c'est que la finale dames se déroule le dimanche, un an sur deux, au lieu d'avoir lieu le samedi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Le tennis est un des sports dans lequel la cause des femmes, la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes a été prise le plus tôt. Un sport dans lequel l'égalité des gains a été, notamment dans les tournois du Grand Chelem, décidée depuis de très nombreuses années, un peu plus tard à Roland-Garros, mais il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Là, on a essayé de porter un combat qui est un combat purement symbolique, mais qui est que le moment ultime de fin des tournois du Grand Chelem, et en l'occurrence de Roland-Garros, eh bien, une année sur deux, ce soit la finale femme et une année sur deux, la finale homme.
Mais ça changerait quoi ?
Ça change quoi ? Ça change symboliquement, c'est un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit pas seulement les hommes qui aient le moment ultime de clôture du tournoi.
J'aimerais savoir ce que Natacha pense de votre féminisme tennistique.
Cela pose tout simplement la question de l'égalité entre les genres au sein du sport, qui par essence est une discipline où justement il y a des différences physiques entre les femmes et les hommes qui sont indéniables. En revanche, je ne me prétendrai jamais spécialiste de tennis. Il me semble que c'est un des sports où un match féminin a autant d'intérêt qu'un match masculin. Il n'y a pas de différence dans la qualité des coups, dans la qualité technique, dans la façon dont ça se fait. Je crois, mais je n'en sais rien. Parce que j'entends, en revanche, des spécialistes de football disserter pendant des heures et ils s'empaillent, ils ne sont jamais d'accord entre ceux qui disent ce n'est pas le même niveau entre les femmes et les hommes, ceux qui disent c'est pas vrai, c'est passionnant. Donc, mais la question est intéressante parce que, pour le coup, il y a une différence physique. Comment résout-on l'articulation entre égalité et différence ?
Gilles, oui, d'un mot, parce qu'il va falloir passer au débat.
D'un mot, il y a une différence claire de puissance entre les hommes et les femmes, et une différence de durée des matchs, puisque dans les tournois du Grand Chelem, les matchs des femmes sont en 3-7 oui. Et les hommes des matchs sont en 5-7.
Et enfin, c'est toujours Venus Williams qui gagne.
Non, justement, c'est là, c'est là où c'est très intéressant.
Et on va s'arrêter là.
Quand on regarde le côté l'incertitude du sport, sur les 12 dernières finales femmes de Roland-Garros, vous avez eu 10 joueuses différentes. Donc, on ne sait pas qui va gagner. Sur les 15 dernières finales hommes, eh bien, Rafael Nadal a gagné 11 fois et peut-être va-t-il gagner une 12e fois.
Non, moi j'espère que c'est Roger Federer.
Mais moi aussi,
enfin,
Ali.
Enfin, cette victoire.
Il l'a gagné.